Bonjour, je vais vous présenter un travail qui est un peu un processus de réflexion. Hein. Ce n'est pas un travail achevé, bien que ça fait un certain nombre d'années que au CCB, Université Paris-Est, on travaille sur les questions de vie durable. Mais j'avoue, là on a eu un peu un exercice supplémentaire, puisqu'il s'agissait de déconstruire un peu ce qu'on avait fait jusque-là et de trouver des éléments de débat autour de la gouvernementalité ou de la gouvernementalisation. Et pour nous, ça a été un peu un challenge. Hein. Donc je vais juste vous présenter des réflexions, à la fois qui s'inscrivent dans une capitalisation de pensée sur ce qui tourne autour du développement durable, et en même temps essayer de conclure à partir de quelle durabilité finalement est mise en acte, hein, est mise à l'épreuve de l'action. Donc premier point, ce sont des travaux qui ont été pour la plupart financés par le BICA. Je tiens à le mentionner parce que c'est toujours important d'avoir un soutien hein, de réflexion. Donc il y a un premier bouquin, je vous le rappelle, qui est sorti en 2009, Super des villes durables, qui comportait notamment des exemples de villes telles que Barcelone, Hanovre, Copenhague. Et là aujourd'hui, je prendrai appui notamment sur deux exemples un peu plus récents. Stockholm, qui fait l'objet de nos travaux plus récents, et puis aussi Vancouver, parce que nous sommes allés un peu outre-Atlantique sur le continent nord-américain, puisque Vancouver est au Canada, mais à quelques kilomètres des États-Unis, hein, au nord, à la partie ouest, donc c'est un peu le Los Angeles du Canada. Et donc c'est important aussi d'envisager finalement à la fois qu'est-ce qui nourrit les approches de la durabilité au Canada et sur ce continent nord-américain, et finalement quels sont les processus par lesquels entre guillemets, le développement durable est mis en œuvre, ses contradictions, ses limites, et c'est un petit peu ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Donc, premier point, la question sur laquelle on est parti hein, de base, c'est consiste à penser qu'il y a différentes approches de la durabilité. Il y a différentes approches de la durabilité parce que ces approches de la durabilité, viennent à la fois de pensées critiques urbaines, d'approches environnementalistes, et les problématiques du développement. On pourrait aussi rajouter des problématiques de l'action publique. Et donc ce qu'on a tenté de faire, c'est de bien analyser quelles sont ces différentes approches de la durabilité, et on se rend compte que selon les cultures, les grandes cultures, les grands continents, les approches de la durabilité différentes que je vais un peu vous exposer, et comment ces approches de durabilité peuvent conduire à un renouvellement de l'agir où se trouvent limitées dans leur inscription dans un renouvellement de l'agir. Parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a une plus grande réflexivité, ça a été énoncé ce matin, mais que cette plus grande réflexivité des acteurs ne se traduit pas forcément en acte. Et c'est ça qui est intéressant. Ne se traduit pas forcément en acte compte tenu justement de l'instrumentation dont fait l'objet le développement durable, et compte tenu aussi de son inscription dans le gouvernement et la gouvernance des villes. Donc là on prend une position, on va dire, un peu théorique assez simple, on regarde du côté des instruments justement de gouvernement, et on se dissocie, on se distancie un peu de l'approche institutionnaliste qu'on avait adoptée finalement dans nos travaux précédents, en disant les structures de gouvernance, c'est important, mais les structures de gouvernance, finalement, sont coproduites, hein, et donc elles sont coproduites à travers les mobilisations de l'action, et c'est ça qui est important de regarder. À la fois, donc, une action publique qui coproduit, finalement, les structures de gouvernance dans lesquelles le développement durable est mis en œuvre, et en même temps, donc, comment s'opère la mobilisation d'action et comment, finalement, elle est instrumentée. Donc c'est un peu dans ce... Alors la première, pour partir de mon propos, finalement je partirai d'une première grande distinction. Je pense qu'il est important de distinguer la durabilité comme concept en formation de la notion de développement durable. Hein, donc c'est pour distinguer ces deux notions essentielles, de la notion de développement durable, qui peut être appréhendé comme un processus d'appropriation collective de la durabilité par un renouvellement d'agir. Donc, et le développement durable qui peut aussi être appréhendé comme une capacité d'action collective qui prend place, comme je l'ai dit, dans la fabrique et le gouvernement des villes. Donc, pour un peu illustrer mon propos, si on prend la notion de durabilité comme un concept en formation, finalement, on se rend compte qu'il y a différentes approches de la durabilité urbaine. Je prendrai quelques exemples. Dans la culture scandinave et aussi dans les cultures anglo-saxonnes, finalement, cette notion de durabilité, elle a été fortement influencée par des approches environnementalistes et notamment qui mettent en avant le rapport à la nature et qui considèrent ce rapport à la nature comme constitutif des liens qui unissent les êtres humains à la société qu'ils bâtissent. Alors si je peux, par exemple, la notion de wilderness, de cette immensité de la nature, est très structurante, hein, sur le continent nord-américain. C'est-à-dire qu'on ne peut que composer avec, finalement, cette immensité de la nature pour bâtir la société urbaine. Hein. Cette nature est si immense, si forte, finalement, ces mouvements naturels sont si forts, je dirais pratiquement en opposition à notre culture rationaliste sud-européenne qui ne sert à rien à contrôler puisqu'elle est incontrôlable. Donc il faut mieux composer avec elle pour bâtir la société urbaine. Donc je ne reviendrai pas sur tous les textes hein, qui ont donné lieu à ces... Je vais aller donner le char qui est là, mais qui ont donné lieu à des écrits. Hein. Et donc, on sent très bien dans les cultures scandinaves qu'on est sur des sociétés urbaines où finalement la culture urbaine en tant que telle est moins présente que dans nos sociétés, je dirais, européennes et sud-européennes. Par exemple, dans la culture scandinave, c'est une culture urbaine assez récente, hein, c'est un monde rural pendant très longtemps. Hein, Stockholm est une petite ville finalement, hein, comparée à d'autres métropoles, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a des courants tels que Metz qui dit que la vie écologique, pour qu'on les nomme, que finalement, c'est le rapport à la nature est constitutif du rapport aux autres. Hein, finalement, c'est dans le rapport à la nature qu'on se constitue en tant qu'être humain dans le monde. Et donc, on a donc bien dans cette représentation-là de la durabilité, hein, ce qui est la durabilité, elle prend sens et contenu dans les interactions entre les écosystèmes et les sociétés urbaines. Hein. Dans notre langage à nous, on dirait dans les interactions entre la nature et la ville. Mais je préfère utiliser les mots proprement anglo-saxons, hein, dans les interactions entre les écosystèmes, j'ai envie de dire, naturels et les écosystèmes artificiels, si je peux me permettre. Hein, donc on voit bien que finalement, la ville est un milieu de vie, hein, c'est un milieu de vie artificialisé. Hein, c'est extrêmement important dans ces pensées anglo-saxonnes. Dans le sud de l'Europe, alors je prends que des esquisses d'illustration, parce que je ne peux pas tout vous citer, hein, donc je prends des fragments d'illustration. Dans les sociétés du sud de l'Europe, la durabilité, elle est essentiellement appréhendée par les dégradations environnementales dues au développement. Elle est aussi appréhendée, cette notion de durabilité, par les inégalités dans l'utilisation et l'accès aux ressources. Hein, donc c'est une durabilité finalement qui prend sens à travers les effets néfastes du développement et de la ville sur l'environnement. Hein, donc l'environnement, lui, donc on voit bien que ce qui est générateur de cette notion de durabilité, dans ce cas-là, c'est un peu l'opposition ville-environnement. Ce n'est pas l'interaction comme on l'a vu dans le premier cas, mais dans la pensée à l'œuvre, c'est, par exemple à Barcelone, etc., c'est bien dans cette opposition entre ville et environnement. Et donc, à Barcelone, par exemple, on voit ce qui est le propre de la culture urbaine, donc de la durabilité urbaine, c'est finalement la composition urbaine et les modes d'habiter qu'elle suscite, hein, que cette composition urbaine suscite, c'est le garant d'une habitabilité urbaine. Hein, donc là, on voit très bien que c'est finalement l'urbanité, c'est la ville en tant que socle des interactions sociales qui va, disons-nous, à préserver. Et donc, c'est pour ça que toute la problématique de Barcelone, c'est finalement, y compris lorsque la ville se diffuse, se dilue dans l'espace, finalement, c'est, on va essayer de tenter de faire un réseau polycentrique de villes compactes. Et on va toujours essayer de reproduire cette compacité urbaine source et ces usages des lieux, source d'interaction sociale, comme socle à la durabilité urbaine. Hein. Donc, et par contre, à Stockholm et Vancouver, donc c'est bien la préservation de l'intégrité environnementale qui va de pair avec l'idée d'habitabilité des milieux de vie, qu'ils soient naturels et artificiels. C'est-à-dire que c'est en défendant l'intégrité environnementale qu'on va maintenir le rapport de l'individu à ce qu'il environne. Vous voyez, qu'on soit dans le périurbain, qu'on soit dans la ville. Hein. Donc ça, c'est des notions qui sont extrêmement importantes, mais qui finalement débouche sur des problématiques de la durabilité qui renvoient à un rapport différent de la société urbaine à, d'une part, ce qui la compose, ce qui l'affecte et ce qui l'environne. Donc là, par exemple, à Vancouver, la problématique de la durabilité urbaine, ben, on voit finalement que la durabilité urbaine est associée à la durabilité environnementale. Hein, elle est associée à la durabilité environnementale, ça veut dire qu'on va tenter de faire une biorégion. On a limité, par exemple, la province à racheter des terres agricoles pour les préserver de toute urbanisation. Donc on voit aussi que dans cette optique, ce qui est important finalement dans la conciliation entre développement, préservation environnementale et finalement l'humanité, c'est comment rendre les villes plus habitables, parce que là on est sur le continent nord-américain, donc c'est comment redonner à la ville toute son essence de lieu de vie, parce que pendant un temps, les villes américaines ont suffisamment été critiquées pour ça, du fait qu'elles n'étaient plus des lieux de vie. Hein. Donc c'est comment rendre la ville plus habitable, c'est-à-dire agréable à vivre, socialement inclusive et préservatrice. 5 minutes, ça va être difficile. Là. Et préservatrice des écosystèmes. Bon, bah, excusez-moi, je vais aller très vite, parce que là, j'en suis à la petite partie. Donc, c'est un peu... voilà. Donc à Barcelone, finalement, on est dans une notion, vous avez plutôt la durabilité urbaine préside à la durabilité environnementale. C'est en travaillant sur ces espaces de la ville, reproduisant la valeur d'urbanité de la ville, y compris dans les villes périurbaines, qu'on va finalement faire œuvre, entre guillemets, de développement durable. Donc on voit bien finalement que ce qui est important là, c'est est-ce que c'est finalement penser de la durabilité, dans quelle mesure elle donne lieu à un renouvellement de l'agir. Hein. Dans quelle mesure finalement cette réflexivité hein, sur la durabilité qui a donné lieu aussi à des instrumentations, à des concepts extrêmement forts. Hein, je vais en citer quelques-uns. Est-ce que ça donne lieu à un renouvellement de l'agir, à une mobilisation de l'action collective. Donc, ce qui est important de voir, c'est. Alors, je vais être obligée, excusez-moi, de couper, voilà, je tourne les pages. C'est que finalement, on se rend compte que dans certains cas, on a un enrichissement mutuel entre historiquement les différentes conceptions de la durabilité qui se sont construites historiquement et donc les modalités de transformation de conduite de l'action collective. Alors, lorsqu'il y a enrichissement, je peux citer l'exemple de Vancouver. Donc, dans Vancouver, on a eu, entre les années 1970 et les années 2010, on a eu finalement une succession de concepts mobilisateurs de l'action, au nom de la durabilité. Donc, c'est la notion de livabilité, donc comme je vous ai dit, qui restaure finalement des villes agréables à vivre sur le continent nord-américain. Après, on a eu la notion de sustainability, a, elle, insisté sur les aspects finalement d'inclusion sociale, c'est-à-dire sur les aspects de lutte contre la ségrégation urbaine et aussi sur les aspects lutte contre, tout ce qui a été ségrégation liée au renchérissement du logement et de préservation environnementale. Et enfin, sur les aspects de résiliency, qui sont finalement comment se mobiliser collectivement contre les changements environnementaux de long terme, tels que le changement climatique, et comment donc organiser la réflexivité au sein des coalitions d'acteurs, entre coalitions d'acteurs économiques, action publique à ces différents niveaux et mobilisation citoyenne, pour finalement avoir des modes de négociation et de structuration de l'action qui prépare s'adapter, entre guillemets, parce qu'il y a différents registres de l'adaptation, à ces changements environnementaux de long terme. Et successivement, correspondent finalement à ces différents, à cette production conceptuelle, j'insiste, c'est une production conceptuelle, à la, essentiellement de l'action publique. Donc vous voyez comment le développement durable est instrumenté à travers des concepts phares, qui va finalement légitimer, quelque part, un renouvellement des instruments qui vont guider l'action à la fois en termes de planification urbaine, en termes de management de projet et en termes de finalement négociation au sein du système des coalitions d'acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance des villes. Alors on a vu effectivement sous la bannière par exemple des politiques de New Urbanisme une participation citoyenne à la conduite des projets urbains. Bon, ça, malheureusement je ne peux pas détailler. On a eu des stratégies urbaines de croissance entre guillemets intelligentes, mais qui sont des stratégies urbaines de croissance équilibrées, on va dire, avec dans une ville comme une région urbaine peut-être dans Vancouver, articulant urbanisme et transport. Il y a quand même un métro automatique, vous voyez, la Skyline, avec des pôles, des gares desservies, des pôles compacts, avec, quand même une mobilisation contre l'expulsion des logements, pour le maintien d'un certain logement social. Et là, on voit que, à travers pour nous ces différents concepts, on a eu à la fois une forte production conceptuelle sur ces éléments phares, mais qui finalement, quand on regarde de près, ont apporté un enrichissement des modes d'action collectifs, mais quand on regarde de près que finalement, cet enrichissement avec 2006 le forum urbain organisé à Vancouver, c'est pas pour rien, avec des débats associant universitaires donc différents niveaux de collectivités, provinces, villes, avec des négociations entre la ville-centre et les villes périphériques sur ces modalités de stratégie urbaine, mais finalement on se rend compte en interpellant les acteurs que quelque part toutes ces productions conceptuelles et ces nouveaux cadres de l'action servent toujours des intérêts, vous voyez, et notamment servent de plus en plus, il faut bien le dire, des intérêts économiques, d'attractivité urbaine. Je prendrais par exemple l'exemple du Smart Growth qui finalement a servi à légitimer une action soutenable, mais qui finalement, on se rend compte, c'est à revaloriser les pôles périphériques reliés par transport collectif et finalement soutiennent des coalitions d'intérêts économiques. Et finalement, si le Smart Growth est y compris est soutenu par la politique Obama, la politique de l'État fédéral par exemple américain, qui aide les villes à mettre en place ces types de structuration du territoire, de stratégie territoriale, on se rend compte que ça sert des coalitions économiques qui sont extrêmement présentes et aussi des coalitions, il faut bien le dire, citoyennes, dans la mesure où aux États-Unis, c'est finalement le citoyen par le paiement des impôts qui va en partie financer les équipements publics. Donc on se rend compte que ça correspond à un compromis entre coalition d'acteurs économiques et certaines parties de citoyens qui ont intérêt à participer à la revalorisation de la ville, qui participent de concert avec les coalitions économiques, à la marchandisation de la ville, compte tenu du système d'impôts et de taxes correspondant aux États-Unis. Je suis désolée, je ne peux pas trop détailler, mais c'est important. Donc finalement, on se rend compte que cette instrumentation du développement durable, quelque part, est prise en étau, hein, au sein d'intérêts, et que finalement, comme le disent le Galais et Sasko, que ces l'instrumentation du développement durable, finalement, rend compte, hein, révèle des intérêts antagonistes ou finalement l'établissement de compromis entre coalitions d'intérêts. Donc c'est extrêmement, je sais que c'est moins mais j'ai dit que la moitié de la communication, donc c'est bien dommage. Je voulais juste dire, sur Stockholm, on a une autre mise en scène, hein, de ces notions de durabilité, puisque finalement l'accentuation fait sur la mise sur la durabilité environnementale fait qu'on a, comment ça se traduit dans le renouvellement de l'agir, et parce qu'on est moins dans la gouvernementalité par des instruments, hein, qui répondent à des intérêts économiques, on est beaucoup plus dans la territorialisation de l'action, mais une territorialisation de l'action qui finalement, on a une action transversale, mais qui se concentre sur des projets. Hein, sur les projets démonstrateurs, des quartiers, sur les projets démonstrateurs, des mesures démonstratives de péage urbain, fortement inégalitaires par ailleurs, où toute finalement la réflexivité qu'apporte le développement durable, d'analyse conséquentielle des décisions prises, est très peu prise en considération, puisque finalement ce péage urbain est fortement inégalitaire, et on a, lorsqu'on a interviewé les habitants ou les associations d'habitants, on a des contours dans des effets pervers qui ne sont pas du tout pris en compte, avec la focale prise sur l'environnement, finalement on recrée, hein, on régénère des inégalités sociales dans l'accès à l'urbanité, puisque les populations de classe moyenne en périurbain vont contourner le péage, vont doubler leur nombre de kilomètres et pour aller à leur travail, donc vont contourner. Et là, on voit des effets finalement inégalitaires de mesures qui sont prises au nom du développement durable.